Pour ma part, j'attends avec impatience le cinquième confinement et sa suite, à savoir, on a perdu le septième confinement et le confinement au clair de lune. Et oui, quand il ne nous reste presque plus rien, il reste toujours l'humour. Et si mon humour ne vous plaît pas, sachez que ce n'est pas qu'il n'est pas drôle, c'est que vous ne le trouvez pas drôle. Attendez donc un peu de voir ce qu'on vous a concocté pour aujourd'hui. Niveau humour, vous n'allez pas être déçu. Vous êtes toujours en France et vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM. Vos habituels complices de presque toujours sont avec vous, Linda, Luc et votre serviteur zélé Julien. Bonjour les amis.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre et qui entend vous sortir du noir. Maintenant, générique maestro. Vous êtes bien sur le 101.5 FM de Radio G et c'est Calibre 58. Nous écoutions L'Aquaboniste de Serge Gainsbourg interprété par Jane Birkin. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une chanson qui s'écoute en boucle dans une Ford Tonus. Si vous en voulez la preuve, allez donc vous plonger dans Casso, le nouveau roman de Jackie Schwartzman. Le roman est au sommaire de notre émission avec à la fois ma chronique et aussi une interview de l'auteur à suivre. Toujours au sommaire de cette émission, la chronique surfroide de Linda. Aujourd'hui, elle s'intéresse au film Il Divo de Paolo Sorrentino, disponible chez Studio Canal. Pour sa chronique On n'achève pas les classiques, Luc nous causera d'arnaque, lui aussi, autour d'un polar d'un certain John Hamilla, disponible chez votre bouquiniste préféré. Enfin, notre débat DVD Blu-ray portera sur Made in Hong Kong, le film de Fruit Chan chez Carlotta. Un film qui s'intéresse à la jeunesse urbaine d'une ville pas encore retournée dans le giron chinois. C'est à la fois violent et élégiaque. Mais revenons à Jackie Schwartzman. Il y a plus d'un an, c'est-à-dire dans un autre monde, j'animais une table ronde à Paris Polar avec des auteurs particulièrement brillants quand il s'agit de manier l'humour dans tout ce qu'il a de plus absurde. Ironie de l'histoire, les deux hommes publient quasiment au même moment leur nouveau roman. Avec Le bonheur est au fond du couloir à gauche, chez Buch et Chastel, Jean-Marcel R. nous ficelle une intrigue jouissive sur fond de dépression et arrive à nous convaincre que Houellebecq est l'auteur le plus comique qui soit. Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Car il y a aussi Jackie Schwartzman et ses losers flamboyants dans la lignée du Dortmunder de Donald Westlake. Au fil de ses publications au seuil dans la collection Cadre Noir, Jackie Schwartzman nous a prouvé que son imagination est sans limite, que ses intrigues sont sans queue ni tête et pourtant implacables, et qu'il a le don de se venger de toutes les petites contrariétés qu'il peut rencontrer dans sa vie. Après plusieurs années à Lyon, Jackie Schwartzman est de retour à Besançon, sa ville natale, un point commun qu'il partage avec un certain Victor Hugo, même si c'est pour uniquement 24 heures. Casso, c'est son troisième roman chez Cadre Noir, et c'est peut-être celui qui a l'intrigue la plus aboutie. Pourtant, au début, je me suis posé des questions. Je connais son écriture. Des phrases choc, un sens de la formule, un esprit caustique qui va chercher entre Pierre Desproges et Gaspard Proust. Schwartzman est comme eux un grand dépressif cynique qui ne s'ignore pas, un observateur caustique de ce qui l'entoure. À leur différence, c'est un éternel béat et je crois quelqu'un de romantique. Le point de départ de Casso est jouissif à souhait. Un homme, appelons-le Jackie Tudyk, est le sosie presque parfait de Mathieu Kassovitz. Il n'a même pas besoin de contrefaire sa voix, puisque c'est celle du réalisateur de La Haine. Cet homme est un arnaqueur né. Tout petit, il contrefaisait les dents de lait pour tromper la petite souris et à travers elle ses parents, tous deux professeurs de philosophie, mais qui ne connaissaient pas grand-chose à la vie de famille. Cet homme a grandi et ses arnaques aussi. Il vivote depuis quelques années à Marseille en soutirant 10 000 euros par-ci et 10 000 euros par-là. Son père est mort et sa mère perd la tête. C'est alors qu'il doit retourner à Besançon pour lui trouver un EHPAD et pour trouver un moyen de le financer. Sur place, il retrouve surtout une bande d'amis d'enfance, une amoureuse d'un soir qui les conduit et qu'il retrouve. Et aussi, la folie des grandeurs, l'arnaque ultime. Mais il va croiser également un producteur satire, des mafieux russes, un médecin légiste et toute une cohorte d'emmerdes. Il y a tout ça dans le roman de Jackie Schwartzman, tout ça et encore plus. Le pire, c'est que ça tient et en haleine et en 216 pages. Pas le temps de s'ennuyer, pas le temps d'être saturé par un style parfois provocateur mais toujours juste. Un roman feel good qui, si on y réfléchit un peu, n'est pas si feel good que ça. Le rire est le comble du désespoir et Jackie Schwartzman le sait bien. Casso, c'est au seuil dans la collection Cadre Noir. Découvrons maintenant qui diable est cet auteur particulier dans le paysage littéraire policier. Bonjour Jackie Schwartzman. Que représente Mathieu Kassovitz pour vous ?
Bonjour. Alors Mathieu Kassovitz, moi j'ai une histoire avec Mathieu Kassovitz. Bon, alors déjà, comme tout le monde, j'ai vu La Haine. Quand La Haine est sortie, c'est 95, moi je suis en fac. Donc je suis un jeune homme avec une bande de copains. On a beaucoup baigné dans cette culture hip-hop. Donc il y avait La Haine de Kassovitz, il y a eu Ma Cité va craquer de Jean-François Richet. Enfin voilà, ça faisait partie des films un peu cultes de l'époque, un peu, comme on dit, un film générationnel. Et il se trouve, alors bon, ça c'est anecdotique, mais que j'ai une petite ressemblance avec Mathieu Kassovitz. Bon, vite fait, hein, une petite ressemblance physique. Et en fait, j'ai eu l'idée de ce roman il y a, je pense, 25 ou 30 ans, quand, enfin, plutôt 20 ans. En fait, il y a des filles dans la rue qui m'ont pris pour lui. Voilà, c'était, j'étais à Grasse, je me souviens, et les filles qui ont cru que j'étais Mathieu Kassovitz. Et j'écrivais déjà, et je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire une histoire d'un sosie, le sosie parfait d'une star. Quelle est la vie du sosie parfait d'une star, voilà. Et puis, bah, tu vois, ça, comme beaucoup de projets, c'était juste une idée en passant, et puis, 20 ans, 25 ans plus tard, j'ai repris cette histoire, ce prémisse là, ce début d'histoire, et j'en ai fait un bouquin. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie, et son jeu d'acteur aussi. Moi, je pense que c'est un des meilleurs acteurs français.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans un personnage d'arnaqueur?
Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que de plus en plus, je m'aperçois que ce sont des personnages qui me plaisent plus que des braqueurs, par exemple. Parce qu'il y a vraiment un côté, un arnaqueur, ça doit être un comédien. Il fait du théâtre pour ses victimes, hein. Donc il y a une petite subtilité, une petite finesse qui dépasse le simple voleur. Notamment, il y avait un film, alors donc j'ai complètement oublié le titre, qui relatait l'histoire d'un gars qui avait construit une autoroute dans le nord de la France. Il a carrément fait venir des entreprises, des agences d'intérim, des engins de BTP. Il a construit une autoroute et embauché une centaine de personnes dans la région. Et tout était, c'était complètement faux. Il était absolument pas de la DDE et c'était un escroc, quoi. Et ça, moi, j'adore. Le mec est resté 3 mois là-haut et c'est une histoire vraie, hein. Ce monsieur a effectivement fait ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté hyper romanesque dans l'arnaqueur. C'est quelqu'un en plus qui est en dehors de la société, qui est un peu à côté des gens normaux, des schémas habituels. Et ce qui est excessivement romanesque aussi, c'est la solitude de ce genre de personnage. Qui est forcément seul et qui ne peut même pas raconter à ses amis ce qu'il fait, de quoi il vit, quoi. Alors, moi, je serais incapable de faire ça dans la vraie vie. Je suis quelqu'un de très dans les clous. Je crois que j'ai jamais dû voler une seule chose dans ma vie, même adolescent. Donc là, on parle d'un type qui est gigolo au Luxembourg, dans ses dinos. François Fellman, lui, était pas forcément arnaqueur, mais un entrepreneur avec des idées un petit peu rocambolesques. Puis là, Jackie Toudic, c'est un vrai arnaqueur. Je serais peut-être plus proche de François Fellman, dans Demain, c'est loin. Donc il a des idées pour monter une boîte. Lui, son but, c'est de réussir par ses idées et pas par une arnaque quelconque, quoi. Voilà, donc ce serait peut-être lui.
Ça vous inspire quoi d'écrire un roman sur les crises existentielles ?
Alors, crise existentielle, pas forcément, mais étape existentielle, oui. Un des personnages principaux de ce roman Casso, c'est la ville de Besançon. Donc, le personnage principal, ce sosie, revient à Besançon, sa ville natale, la ville où il a grandi, où il a été adolescent, étudiant, après 15 ans d'absence, pour revenir s'occuper de sa mère. Enfin, bref, peu importe. Et donc, il redécouvre sa ville 15 ans après. Et il se trouve que c'est ce que j'ai fait cette année. Oui, j'étais à Lyon et je me suis installé à Besançon cette année, donc je me suis amusé effectivement à revoir cette ville que j'ai quittée il y a 15 ans. Petit côté militant presque régionaliste. Besançon est une ville qui est totalement méconnue en France. Et voilà, c'était pour faire un petit coup de projecteur sur cette ville. Donc c'est pas une crise, c'est une étape dans la vie. Alors je sais pas si je pense que ça concerne beaucoup de gens qui décident de, j'allais dire revenir aux sources, c'est pas ça, mais de revenir dans la ville des origines, passer un certain âge. Je crois que c'est très tendance avec le Covid depuis l'année 2019 où il y a eu ces mois de confinement. Je crois que notamment il y a pas mal de Parisiens qui ont fait le choix de quitter Paris et de s'installer en région, comme on dit. Donc finalement c'est tendance.
Qui sont ses parents à ce Jackie Toudic?
Eh ben, des étrangers, tout simplement. Là, j'ai créé un personnage dont les parents sont les deux profs de philo, et donc il est fils unique, et les deux sont beaucoup plus aptes à décortiquer la critique de la raison pure de Kant que de lire une histoire à leur enfant de 5 ans. Là, c'est un peu des handicapés parentaux, je sais pas comment dire, ils sont absolument pas faits pour ça, et ce qui fait que concrètement l'enfant, ce gamin-là a été complètement d'abord seul et du coup solitaire, quoi. Voilà, et c'est comme ça, lui il prend ça comme ça, il dit bah ouais, mais mes parents ne connaissent pas le métier de parent, en fait. Donc il les voit, il a quand même de la tendresse pour les deux. Il n'y a pas du tout d'animosité, de rancœur. C'est un constat froid, voilà. Ses parents ne savent pas, n'ont jamais su s'occuper de lui. Donc il a grandi comme ça, un peu tout seul. Il s'est fait un peu tout seul dans cette espèce d'appartement, comme dans du coton, voilà. Ce qui d'ailleurs, au cours du roman, il cherche un peu à savoir ce qui dans l'éducation qu'il a reçue a fait de lui ce qu'il est, donc c'est-à-dire un arnaqueur, quoi. Ah oui, bah d'ailleurs, lui, il s'en amuse. Il dit qu'il a fait une fac de philo pour entretenir l'obsession familiale. Donc c'est un type qui a un bagage, voilà. Dans l'histoire, il a commencé une fac de philo qu'il a arrêté assez vite. Mais c'est un type qui a des lectures et il explique que dans l'appartement de ses parents, c'était un labyrinthe de piles de livres en fait. Il y a des milliers de livres. Donc alors évidemment des livres de philo, mais aussi de sociologie, d'histoire, des romans. Il a grandi dans cet univers d'intellect. Donc même si lui est passé un petit peu entre les gouttes pour faire totalement autre chose, ça ne lui est pas du tout étranger. D'ailleurs, effectivement, moi, comme souvent, je m'amuse à utiliser des concepts de philo. J'ai fait une fac de philo aussi, très courte, hein. J'étais beaucoup plus intéressé par les baby-foot, en fait, par les pannes de bière que par Kant. Mais j'aime bien, moi, reprendre des concepts un peu comme ça que j'ai bossé en fac, et puis les insérer dans des récits, en trouvant une résonance avec le quotidien de mon personnage, quoi. Sans que ça tourne au donneur de leçon, voilà. J'essaie de me positionner un peu, placer des choses sans avoir un discours de professeur, quoi.
C'est qui, Zoé?
Alors Zoé, c'est une avocate qui a une cinquantaine d'années et qui est un peu la femme fatale de l'histoire. Enfin, je l'ai pas pensé comme ça, mais là, sans trop réfléchir, je dis oui, c'est un peu la femme fatale de l'histoire qui va faire comprendre au personnage principal, le sosie de Kassovitz, qu'il doit faire quelque chose de plus que ce qu'il fait, quoi. Là, il fait des petites arnaques, il se fait passer pour Mathieu Kassovitz. Sans dévoiler l'histoire, il a trouvé une petite arnaque qui fait qu'il gagne des petites enveloppes de 10-15 000 euros par-ci par-là. Et elle va le révéler, en fait. Elle va lui faire comprendre que non, il doit aller beaucoup plus loin et que il ressemble tellement à Kassovitz, c'en est même troublant parce qu'il a quasiment la même voix. Elle réussit à le convaincre qu'il doit parvenir à détourner des millions d'euros, quoi. Donc voilà, c'est un révélateur pour le personnage principal qui jusque-là vivotait pas plutôt bien, hein. Ces histoires d'arnaque, ça marchait, mais elle va le convaincre de changer de dimension et à ses risques et périls, du coup.
Qu'est-ce qui vous plaît dans l'humour?
Je sais pas, c'est ce que j'adore en fait, me moquer. C'est un travers. Je pense que je suis tout le temps en train de me moquer des gens qui m'entourent, y compris de moi-même, de mes proches. Enfin, j'adore ça. Voilà. J'adore. Ça fait partie aussi, je pense, du boulot d'écrivain, c'est d'observer nos contemporains et puis de décrire les travers. Alors, il se trouve que dans mon travail, il y a un peu d'humour qui ne sert pas juste à égayer le récit et à le rendre léger, quoi. C'est aussi d'une efficacité redoutable. On peut faire passer tellement de choses. En le faisant avec humour. D'ailleurs, je remarque que dans mes bouquins, je suis parfois assez vache avec plein de personnages, de personnages de la vie civile, de la vraie vie, et je me suis jamais fait agresser par personne. C'est-à-dire que même les gens qui se font tailler en pièces dans mes bouquins, j'ai jamais senti d'animosité quand je rencontre des lecteurs. Les gens se marrent, en fait. Du coup, ça veut dire que le message passe sans heurts, sans catastrophe, sans accident. Voilà. C'est ma façon je vais aller dire dénoncer, mais c'est pas ça, parce que je déteste les donneurs de leçons dans les romans. Notamment, je mets un point d'honneur à essayer de ne jamais être militant pour quelle que soit la cause. Je veux pas être militant, en sachant que moi, je considère quand même que mon premier rôle, c'est de raconter une histoire. De divertir, c'est important, et je veux pas oublier cet aspect de mon travail qui est mon travail. Donc raconter une histoire, divertir les gens. Quelqu'un prend un bouquin, bah, pendant 2-3 heures il sort complètement de sa vie. C'est quand même ça le but premier. Donc je veux pas polluer ça avec un militantisme quel qu'il soit. Voilà.
Pourquoi dresser le portrait de loser magnifique?
Eh ben, c'est drôle parce que Donald Westlake, j'ai une histoire un peu qui est amusante avec cet auteur, c'est que je les avais jamais lus jusqu'à très récemment. Et ça fait plusieurs fois dans les salons du livre qu'on me compare, qu'on me dit, ah, il y a un côté Westlake chez toi, etc. Donc, et jusqu'à présent, je souriais bêtement en disant merci, alors que j'avais jamais lu. Et des libraires aussi, dont mon libraire à Besançon, là, récemment, il m'a engueulé en me disant t'as pas lu Westlake, c'est pas normal. Et du coup, j'ai lu Dégâts des eaux. Et effectivement, j'ai compris un peu le cousinage. J'ai compris ce que le cousinage que voyaient que pouvaient voir les lecteurs. Pas trop dans le style ou ces choses-là, mais plutôt dans le choix des personnages, justement, ces côtés. J'aime bien les arnaqueurs ou les braqueurs pieds nickelés. Hein, voilà, ça, j'adore. Hein, dans le cinéma, des braqueurs comme dans les films de Guy Ritchie, dans Snatch, par exemple. Voilà, ça me fait hurler de rire. J'adore ça. Je préfère ça à un film sérieux sur la mafia, y compris un Scorsese, quoi. Alors, je suis fou de Scorsese, hein, mais j'ai vraiment une tendresse pour les braqueurs nuls, en fait. Ça m'amuse. Mais voilà, oui. Et puis, en sachant que... Mais c'est un peu le thème de Demain, c'est loin. C'est que le mec est nul. Enfin, il est presque génial, il est presque nul, on sait pas trop. Et puis, quand même, dans l'histoire, bah, y a un peu le coup de sa vie, le super casse, est-ce qu'il va y arriver ou pas. C'est une structure qui est banale, mais qui est efficace, qui marche toujours, quoi.
En fait, vous écrivez des histoires d'amour. Vous en avez conscience ?
Eh bien, récemment, je suis en train de travailler sur l'adaptation ciné et donc sur le scénario de Demain c'est loin. Donc avec des producteurs, voilà, c'est en train de se faire. Et le producteur qui s'appelle Nicolas Mauvernet m'a dit une fois là récemment, il m'a dit tu le sais pas, mais tu fais des comédies romantiques. Alors ça m'a au départ j'ai cru qu'il se foutait de moi et donc c'était à moitié une boutade et en réfléchissant je me disais mais en fait c'est un peu ça, je suis un peu mes bouquins c'est un peu toujours il y a toujours une belle histoire, il y a toujours une belle histoire d'amour qui se profile donc je suis peut-être un peu obligé d'admettre, ouais, je suis peut-être une midinette en fait.
Merci à vous. Et maintenant on écoute quoi comme musique?
Ah là tout de suite et ben moi j'ai découvert tout récemment un groupe français qui s'appelle Catastrophe, que j'adore. Et leur dernier album, dans leur dernier album, il y a une chanson qui s'appelle Vide. Voilà, comme le vide, que je trouve magnifique. Merci.
Vide, il y a du vide tout autour de toi. Des particules, tu ne le sais pas. Tout s'agit autour de toi. Signe, tu ne regardes pas, tu ne t'ennuies pas. Que fais-tu quand tu ne fais rien?
Je ne sais plus.
De quoi le vide est-il plein?
De temps perdu.
T'assieds-tu seul sur bon.
Ne t'en fais pas.
Regardez passer le temps.
Tu t'en iras.
Ralentis, écoute le bruit de chez toi. L'ampoule qui grésille ton vieux matelas. Tout disparaîtra.
Thank you. j'ai l'impression que le temps il se distend un petit peu. Les moments me semblent plus riches, plus intenses. Et puis je laisse couler, je laisse glisser, et ça va bien aussi quand ça coule et quand ça glisse comme ça. Ça me va, ouais, j'accepte ça maintenant de moi.
Sur Radio G 101.5 FM, c'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir. Nous écoutions sur les conseils de Jackie Schwartzmann, le groupe français Catastrophe, qui nous chantait le grand vide. Et du grand vide au trop plein, c'est l'heure maintenant d'écouter la chronique sueur froide de Linda, après un petit jingle et la bande-annonce du film, en version bilingue s'il vous plaît, mi-Italie, mi-échange de coups de feu.
I want you to follow my wife. I'm afraid some harm may come to her.
I'm supposed to be retired. I don't want to get mixed up in this darn thing. I have acrophobia, which gives me vertigo, and I get dizzy.
Do you believe that someone out of the past, someone dead, can enter and take possession of a living being?
Carlotta Valdez was what? Your wife's grandmother?
Great-grandmother.
That explains it. Yeah, anyone could become obsessed with the past. Has this ever happened to you before?
Listen, what is this? What do you want?
Just want to know who you are.
Does that remind you of her?
Thing I have to do, then I'll be free of the past.
Oui, moi je vous parle du film Il Divo, film italien donc. Le pouvoir a une face cachée. C'est pas moi qui le dis, c'est le sous-titre du film. Ce n'est pas un film récent parce qu'il a été Grand Prix du jury à Cannes en 2008. Vous me direz, pour voir un film récent en ce moment. Voilà, donc il est disponible sur les plateformes numériques qui sont en lien avec les bibliothèques. Donc, auquel vous avez accès dès lors que vous avez une carte de bibliothèque. Donc, c'est un film de Paolo Sorrentino, avec le fameux Tony Servillo dans le rôle titre du personnage, le fameux Giulio Andreotti. Vous savez, Giulio Andreotti, élu 7 fois au Parlement italien depuis 1946, c'est surnommé l'inoxydable, autrement dit, il divo. Alors, il a été jugé en 1990. Eh bien, je vous laisse deviner ce qui s'est passé après. Alors, il a été jugé pour ses liens avec la mafia Cosa Nostra, entre autres pour l'assassinat d'un journaliste qui avait des preuves compromettantes le concernant par rapport à l'affaire Aldo Moro, entre autres. Enfin, en tout cas, ce seraient des écrits d'Aldo Moro qui auraient révélé plein de choses sur Andreotti. Pour rappel, Aldo Moro, c'est un homme politique très célèbre, j'allais dire, très aimé, très en vogue en Italie, qui a été enlevé par les Brigades Rouges. Et ben, en fait, le parti auquel il appartenait, donc des chrétiens, a refusé de négocier avec les Brigades Rouges et il a donc fini par être exécuté. Voilà, voilà. Il y a une émission sur France Inter très intéressante là-dessus, d'affaires sensibles. Alors, par contre, je ne me rappelle plus si c'est 2020 ou 2019. Ce n'est pas récent. Mais vous pouvez retrouver très facilement. Vous cherchez affaires sensibles, Aldo Moro, et vous allez retrouver ça très facilement. Voilà. Bon, alors ça peut paraître plombant tout ça. Eh ben non, parce qu'il y a énormément d'humour. Il y a un parti pris théâtral absolument surprenant. Voilà. Et j'adore ça, moi, être surprise. Surtout, au début, on ne comprend rien, en fait. On est balancé là-dedans. On se dit, mais qui est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi cette forme cinématographique, etc. Ça met un temps à se mettre en place. Et puis, il y a plein de codes, notamment dans la gestuelle, dans la façon de bouger. Alors, le personnage principal, donc, on a l'impression qu'il est juste monolithe. Il est sur pivot, il a une façon... Alors, il n'est pas le seul, ils ont une façon de se déplacer. Quelquefois, ils tournent à 90 degrés. Lui, il a un monologue à un moment donné, mais c'est vraiment du théâtre, quoi. Et il a une... Alors qu'il est toujours pince sans rire, aucune émotion qui traverse le visage, etc. Et là, il a une envolée lyrique qui monte. Il a un éclairage par le dessus, là, vraiment en douche. On a vraiment l'impression qu'il a des parts en lumière crue. Enfin, c'est très vivant, très recherché. Il y a beaucoup de dérision aussi. On voit arriver un de ses acolytes, une espèce de vieux beau, vraiment une caricature d'Italien, qui arrive avec deux grandes pin-up, certainement, elles sont tellement plus grandes que lui, c'est une grande gigue magnifique, qui doivent être mannequins. Il y a une espèce de ralenti quand il sort de la voiture. C'est jamais trop... c'est très drôle. Il y a aussi beaucoup de travail avec la musique sur des images qui ne sont absolument pas drôles. Il y a une création musicale qui est incroyable. Et moi, honnêtement, j'ai pouffé de rire sur des choses qui, bon, ne le sont pas forcément, hein, parce que bah, mafia, compromission, sang, etc. Enfin voilà. Donc moi, j'ai été emballée par ce film et j'espère que, eh ben, que je vais vous communiquer cette envie de le voir. Je vous rappelle, Il Divo de Paolo Sorrentino. Et voilà, à ciao, bonsoir.
Merci Linda pour cette chronique qui donne envie d'aller piocher au fin fond de sa vidéothèque pour passer une soirée délicieuse comme on les aime. On continue dans la même veine. Vous entendez cette petite musique? Eh oui, c'est l'heure de notre débat cinéma autour de Made in Hong Kong de Fred Chan. On passe un petit extrait et on laisse la parole à nos chroniqueurs dans l'ordre Luc et Linda.
中秋，我读唔到中三已经毕咗业，原因是一半成绩史点读都读唔嚟，而另一半是香港教育制度重视，你想读都冇得你读。其实好似我呢类人，通街都是大家平时冇嘢做就兴玩埋堆，一齐打下波打下交，跟下人或者俾人跟。
唔好坐啊，好难啊，
唉，俾我成日得唔得啫？
Décidément, Julien, tes propositions de films sont pour le moins déroutantes. Le balancier de tes choix nous fait et parcourir le monde, et parcourir les genres, et découvrir des pépites insoupçonnées. Aujourd'hui, tu nous proposes d'échanger autour d'un film de Fruy Chan, Made in Hong Kong, titre tautologique, tant le film nous plonge dans Hong Kong, à la veille de sa rétrocession à la Chine, en 1997. Et quand je dis « nous plonge », on n'est pas loin de l'euphémisme. La matière filmique en elle-même est Hong Kong. L'histoire est simple. Mi-août, Sam Lee, baptisé comme cela parce qu'il est né le 15 août, est un adolescent en rupture de ban, ayant abandonné l'école, recruté comme collecteur de prêts impayés par des usuriers. Dans son périple, il tombe amoureux de Lam Yuk-ping, Nike Lim, adolescente elle aussi déscolarisée mais malade, et pour survivre devant se faire greffer un rein. Mi-août décide de prendre sous son aile un jeune homme, Jackie Wenders Lee, faible d'esprit, abandonné par ses parents et persécuté parce que proie facile. Et enfin Bo Chan, ami Tam, une jeune fille qui se suicide du haut d'un bâtiment, laissant deux lettres d'adieu. Par amour, Mi-août va accepter le contrat de M. Wing, proche des triades, d'assassiner un homme, le prix du meurtre lui permettant de rembourser les dettes de la mère de Lam Yuk-ping. Il n'en aura pas le courage, mais en payera le prix chèrement. Poignardé, il découvrira à sa sortie de l'hôpital son univers dévasté. Raconté comme cela, le film pourrait paraître une bluette, mais voilà, c'est Fruy Chan qui est à la manœuvre. C'est pourtant son premier film. Il a vraiment quelque chose à dire sur son pays, et il le dit sans compromis. D'abord, au travers d'un casting éblouissant, Mi-août est un jeune comédien charismatique. Il n'est pas beau, mais il y irradie. Il est totalement habité par son rôle. Le parallèle avec Jackie, le simple d'esprit, grand, corpulent, malhabile et frappant. Quant à Lam Yuk-ping, son apparente perversité, son nihilisme cache un désir de vivre puissant. Les images de Hong Kong sont loin du cliché. On est dans le peuple, l'habitat social est dans sa plus extrême simplicité. La Chine est tout près et présente tout le temps. Mais le plus fantastique, c'est l'art du cadrage et du montage. Fruy Chan pose sa caméra à des endroits improbables. Il utilise le ralenti avec maestria. Il joue à répéter des séquences plusieurs fois. Et la violence permanente, celle de la société, mais celle aussi du monde des voyous, est amenée toujours au bon moment, avec des arrêts sur image qui la démultiplient. C'est un film déroutant, complexe, mais si on accepte de se laisser porter par Fruy Chan, si on accepte ses digressions, si on se remplit des images superbes qu'il nous donne à voir, alors on comprend ce que c'est que le cinéma. Par exemple, dans ces images, ce plan où Mi-août, Jackie et Lam Yuk-ping sont dans le cimetière de Hong Kong, hurlant le prénom de la jeune suicidée Bo Chan, est inoubliable. Quant à la morale du film, elle laisse sans voix. Et même pour les moins insensibles, avec des larmes dans les yeux.
Quel film troublant! Je me suis laissée prendre peu à peu. En fait, je me suis même surprise à regarder l'heure à la moitié. Je trouvais pas le temps long, mais quand j'ai vu l'heure, je fais « Oh là là, on n'est qu'à la moitié !» Bon. Et puis, peu à peu, j'ai été attrapée, et plus en plus émue, et pour finir vraiment, ouais, troublée. Ça oscille entre, enfin, ça alterne entre une violence inouïe, un univers de béton, et à l'intérieur de ça, des grands moments de tendresse, d'amour, d'humour. Ce qui m'a vraiment retournée, ce sont ces paroles d'ado, parce que en fait, ce sont pas des adultes encore, tout ce qu'on suit là, et toute cette violence que subissent les enfants par les adultes. Et c'est, encore une fois, j'ai trouvé ça absolument inouï d'être... que ce soit empoigné de façon aussi vivante, sans phare. À quelques moments, je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu de... Oh, s'il en faisait pas trop au niveau de l'esthétisme. Et puis, en fait, c'est, à chaque fois, ça s'arrête parce que c'est volontaire et il redéfait derrière ce... Alors, je ne dis pas qu'il est parfait, mais moi, absolument, je m'en fiche. Par contre, il y a vraiment des... C'est atypique, surprenant et entraînant. Il y a des exemples absolument sordides de jeunes qui se font justice parce que les adultes n'assument pas, quoi. Il y a une scène auquel le jeune homme assiste d'un autre garçon qui vient venger sa petite sœur, ou sa grande sœur d'ailleurs, on ne sait pas trop, mais en tout cas de venger sa sœur parce qu'elle était violée par un adulte et que les parents n'ont rien fait. Alors là, c'est de la boucherie, hein, mais au premier sens du terme, parce qu'ils sont tous là avec leur... Il y a beaucoup d'armes blanches, mais les gros couteaux de boucherie qu'on trouve en Asie, les larmes très très larges, on a l'impression qu'elles pèsent une tonne. Moi, j'arrive pas à avoir de jugement par rapport à ça. Je me suis dit, mais quelle oppression permanente, quoi. On voit des pères qui abandonnent femmes, enfants. C'est aussi l'indifférence de la façon de classifier les enfants. Ils n'ont plus qu'une chance. Ils ont fait une connerie. Et ben, c'est fini. Ils sont estampillés et ils n'auront pas de chance. Même, on ne croit plus à leur sincérité, quoi. Même la fuite aussi, j'ai dit tout à l'heure le père, mais il y a des mères aussi qui abandonnent parce qu'elles se disent, oh, ben, j'en suis pas capable. Et puis, ah ben oui, mais peut-être. Mais du coup, tu lâches le môme comme ça, quoi. Wow. Alors moi, j'ai été très touchée aussi par un passage... Enfin, il y a plusieurs passages qui reviennent comme ça. Il y a de la voix off, donc on est dans la tête de ce jeune homme qui se promène, notamment dans leur fameux grand marché couvert. Et puis, on entend ce qu'il ressent. Alors, il y a deux, trois saillies comme ça où, par exemple, il dit à un moment donné « Parfois, les adultes sont lâches. J'aimerais leur arracher le cœur pour voir s'il est plus noir que la merde. » Bon, voilà. Il est aussi tombé sur... Il y a une toute jeune fille, hein, tout départ, là, qui se suicide, qui se jette du haut d'un immeuble. Et il n'arrête pas d'en rêver. Et un matin, on le voit, il est en train de dormir, il y a des gouttes de condensation qui coulent sur son visage. Et il dit, je me suis réveillée, les yeux pleins de larmes. Ce n'était pas les miennes, celles de la jeune fille suicidée. Bref, je trouve qu'il y a des moments de poésie comme ça qui font un bien fou dans toutes ces tueries. Et puis, ces relations qui sont magnifiques, qu'il tisse, qu'il protège un jeune homme handicapé. Alors, c'est pareil, cette société n'a aucun... Enfin, que ce soit sur les jeunes, sur les handicapés, il n'y a pas de bienveillance, quoi. Voilà, bon, je vous passe les détails de tout ce qui m'a... Tout ce qui m'a touchée. Il y a aussi la sortie, quand il téléphone une dernière fois à son ami, et il demande dans quel cas de figure on peut tuer impunément. Donc évidemment, l'ami est un peu estomaqué, et il répond, pendant la guerre, je suppose. Voilà. Je n'ai pas beaucoup d'autres commentaires. Hein. La jeunesse, l'espoir, l'avenir de la société, c'est ça?
Alors, je crois que c'est l'heure de l'autocongratulation. J'ai réussi ce que je n'avais pas encore réussi à faire, à savoir susciter l'adhésion entière et totale de tout le monde autour d'un film. Made in Hong Kong de Fruit Shine. C'est chez Carlotta et c'est tout sauf une contrefaçon. Pourtant, la matière de ce film est universelle. L'action pourrait se tourner à Détroit, aux États-Unis, à Bombay, en Inde ou au Caire, en Égypte. Une jeunesse désœuvrée qui roule des mécaniques, qui cherche sa place et qui trouve son importance en travaillant pour la pègre. L'argent facile, l'honneur en avant, les parents démunis, les premières amours. Et pourtant, la prestation de Sam Lee, qui joue le personnage de Miaout, est impressionnante de justesse. Lui, c'est une petite frappe, violente dans un monde où la violence est nécessaire, mais qui est dotée d'un bon cœur. Vous en voulez une preuve? Alors regardez-le s'occuper de Jackie, l'handicapé mental de cette histoire. C'est aussi un personnage fleur bleue. Dès le début, on sait avant lui qu'il est amoureux. Mais comme dans un Roméo et Juliette des temps modernes, la passion que nourrissent deux adolescents va être contrariée par les familles et par l'extérieur. Il y a de la tendresse chez Fu Chan. Il réussit le tour de force de réaliser un film à la fois élégiaque et violent, esthétique et dramatique, sur une jeunesse sans espoir, abandonnée à elle-même et qui ne le sait pas encore, le pire est à venir. Comme l'a dit Linda, les coupe-choux sont impressionnants et on observe quelques scènes déjà vues du thriller, comme ce tueur au tournevis qui se déplace en skateboard. Les scènes les plus abouties sont assurément celles qui se passent dans un cimetière. Alors, la question que pose le film est « Peut-on mourir d'amour ?» Le film de Fu Chan donne trois réponses, et le fait que les trois protagonistes intéressés l'écrivent dans une lettre commune est tout sauf anodin. Voici donc un film bouleversant. Un dernier mot, Luc ?
Eh bien les amis, si on me posait la question « Qu'est-ce que le cinéma ?», alors je répondrais sans hésiter « Made in Hong Kong » de Fu Chan. Voilà un réalisateur qui de toute évidence a vu beaucoup de films, certainement autant Jean-Luc Godard que Clint Eastwood. Il a compris ce que ces grands réalisateurs nous disaient et lui, Fu Chan, en a fait quelque chose. Le scénario est magnifique. L'intrigue qui tient à une lettre qui n'est pas remise à ses destinataires est superbe. Et les jeunes comédiens sont dirigés de main de maître. Il y a de l'habileté, du savoir-faire, de la culture chez Fu Chan, mais pas de maniérisme. Made in Hong Kong est un film hautement recommandable, j'irais même jusqu'à dire indispensable.
A rapper got shot, and no one knows. So pull the trigger on the kid and lay them in his grave. And after the prayers and the street parade, shit got forgot, and now he's dead. And all the fans love everything he says. So understand this, you don't wanna miss sex, drug, and violence.
We like those gangs to run. Just make sure they don't run.
A young pony
rapper
get caught.
A lot of times it's only make-believe.
That cold steel when I'm roaming through Brooklyn.
Hey yo, once upon a time in Jamaica, Queens, an icon gets shot and no one knew what it means. It was just another murder scene, but let's get on with the bling bling. Ching ching and half naked chicks that can't sing. Murder weapon never found, police never around. The respect, the intellect, and the suspect all out of town. It's all out of bounds. KRS Chuck D making our rounds, man. Why they taking us down, man? Or taking you down? I got another new sound. It's really an old sound, but you know how me and Chuck get down. We got peace, love, unity, and having the fun. But y'all want sex, drugs, violence, 101.
Here it is. Bam.
Stop being a little boy with a little toy. Stand up and be a man. Now you see the plan from west to east. Instead of sex, drugs, and violence, we got love, purpose, and peace. We be hurting the least. We be working, no seats. Bringing it to America like Geronimo and Cochise. Get that. But make sure when you spit rap, if you ain't really ready to die, yo, don't
we
spit
like
that.
The things to run. Just make sure they
A young pony rapper
kill
and eat. Bodies get caught.
A lot of times it's only make-believe.
That cold steel when I'm roaming through Brooklyn.
Once upon a time I was on Long Island. A man got shot and he wasn't smiling. He was bleeding from his guts, yo. A policeman was sitting in his car on his butt, yo. Not one police light came on. When the man died, who was the blame on? Was it me? Not you. I didn't kill nobody, cause my records don't do that. I make the records for the kids. Gangsta rap flipping people's kids' lids.
We like those gangsta rhymes. Just make sure they don't corrupt our minds. These rappers kill and eat.
vous écoutiez Public Enemy qui vous déclamait Sex, Drug and Violence, un programme malheureusement universel. Vous êtes bien sur Radio G, 101.5 FM. C'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir. Mais c'est maintenant l'heure d'écouter la chronique de Luc. On n'achève pas les classiques. Pas vrai, Luc ?
Tu voulais du roman sec, court et captivant, Julien ? Eh bien là, tu vas être servi. Je suis bien tombé avec « Il n'y a pas de bon Dieu » de John Amila. Il a tout pour plaire, ce polar typiquement américain, même s'il cache une véritable petite arnaque, une tricherie à la Borisian. Dès la page de garde, on a le nom du traducteur, Jean Mecker, le révolté, l'incompris de la littérature. Et finalement, qu'il ait traduit ce roman pourrait être tout à fait crédible. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a arnaque. Parce que de John Amila, l'auteur, il n'y a pas. Ce n'est que le pseudonyme de Jean Mecker. Alors, voyons voir un peu de quoi il retourne. L'histoire se passe dans un bled fictif, Mowala. Et ça commence très fort, acte 1. Le jeune pasteur, Paul Wiseman, est confronté à des individus patibulaires dans une grange. Il est attaché, jeté sur une énorme enclume, et l'un des individus lui assène un violent coup de masse sur le genou. Il est relâché en pleine nature et doit rejoindre Mowala, qui se situe à pas moins de 3 heures de marche. En fait, quelle est la raison de cette agression ? Le DAM, une entreprise de travaux, veut construire un barrage qui aurait pour conséquence de noyer Mowala. Il est proposé aux 350 habitants d'aller vivre un peu plus loin. Mais les habitants des plouks de la campagne ne l'entendent pas de cette oreille et s'opposent fermement au projet. Acte 2. Deux agents du DAM viennent boire un verre au bar de Mowala, mais sont pris à partie. Ils fuient en tirant avec des armes à feu. Ils sont poursuivis par le pasteur et James Hillary, le shérif, qui les rattrape. Et au cours de l'accrochage, le pasteur, ancien militaire, tue un des agents. Acte 3, ça va dégénérer, parce que, en fait, le projet de barrage est un leurre. Les terres de Mowala recèlent des fortunes. Et John Irving Sorodal, le promoteur du projet, est prêt à tout, à l'américaine, pour se les approprier. John Amila, puisque c'est le nom que Jean Mecker s'est choisi, va aller au bout de son projet d'écriture, sans concession. Tous les éléments qu'il met dans son histoire ont une justification. Le monde qu'il décrit est violent, il crée les conditions de la violence, ne recule pas devant l'obstacle, y compris avec l'usage des engins de chantier. Je disais qu'il y avait arnaque, puisque l'auteur est un bon français. Un lecteur inattentif pourrait se laisser piéger. Déjà, sur la couverture, l'auteur est affublé du nom pseudo-américain de John Amila. Jean Mecker situe l'action dans un territoire américain crédible. La psychologie des personnages correspond aux clichés que l'on a de ce que l'on appelle les « rednecks », les plouks des campagnes américaines. En posant l'action dans une petite communauté de 350 âmes, il se donne la possibilité de brosser une galerie de personnages forts, y compris l'adolescente délurée d'à peine 16 ans, fille du shérif, qui séduit tous les mâles, dont le pasteur, qui succombera. Mais un lecteur attentif s'étonnera d'une traduction si française. L'écriture est fluide, les tournures sont typiquement françaises, y compris l'argot. Par expérience, les traducteurs de l'époque usaient d'une langue qui semble aujourd'hui artificielle, ce qui n'est pas le cas avec « Il n'y a pas de bon Dieu ». Dans ce petit roman, John Amila, Jean Mecker, je le rappelle, n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il dénonce tout ce qui fait l'Amérique, la corruption des élites politiques, la soumission de la justice, la compromission de la police. Mais le roman écrit en 1950 nous parle bien de la France. Jean Mecker est un auteur qui a un parti pris. Il ne fait pas dans la demi-mesure. Il défend l'action radicale. Dans ce roman, et je vais te faire plaisir, Julien, il y a un fond d'Edouard Abeille et de son gang de la clé à molette. et il touille dans la marmite recuite des peurs américaines avec une habileté magnifique. En premier lieu, les communistes, les rouges, véritables démons prêts à tout pour détruire les USA, pays de la liberté. Jean Maker ne se trompe pas sur cet aspect. Cette peur cultivée par les politiciens à toutes les strates du pays est véridique et date du début du XXe siècle, quand les ouvriers tentaient de s'organiser en syndicats, où le Parti communiste était véritablement constitué, était très actif et menait des actions violentes. Les quelques habitants de Mohalla sont donc accusés d'être manipulés par le pasteur Suppo des Rouges. Et la hiérarchie religieuse ne se privera pas d'abonder dans ce sens pour discréditer ce pasteur par trop indépendant. Jean Maker est le grand oublié de la littérature du XXe siècle. Après avoir publié des romans inoubliables, dont son tout premier « Les coups », il se tourne vers le roman noir après une rencontre avec Marcel Duhamel. Il n'y a pas de bon Dieu est son premier roman noir et le premier français publié dans la série noire. Il porte le numéro 53. Entre Lâcher les chiens de James Hadley Chase, numéro 52, et 100 mètres de silence de Jim Thompson, numéro 54. Avoue, Julien, qu'il y a pire comme compagnie. Le roman s'appelle Il n'y a pas de bon Dieu. Il est de John Amila. Jean Maker, je le rappelle, il est publié dans la série noire sous le numéro 53 et il est à consommer sans modération.
Merci à toi, Luc. Et j'adore les rednecks et autres personnages de la exploitation. Jean Amila est un grand bonhomme. On attendra que les éditions Joël Losfeld continuent leur réédition de cet écrivain. Calibre 58, c'était cette semaine avec Linda et Luc. On a causé du film Made in Hong Kong de Fruit Chan, disponible chez Carlotta. On a entendu Jackie Schwartzman et on en sait un peu plus sur Casso, son roman détonnant publié au Seuil dans la collection Cadre Noir. Je note que sort au même moment en poche ses points Le Coffre, un court roman à quatre mains écrit avec le roumain Lucian Dragos Bogdan. Luc nous a vanté les mérites de Il n'y a pas de bon Dieu de Jean Amila et Linda nous a proposé Il Divo, un film italien de Paolo Sorrentino. Pour retrouver le sommaire de l'émission Calibre 58, deux adresses. Le site de Radio G et sa page dédiée à notre émission. Et aussi, il faut le dire, la page Facebook Calibre 58. On vous dit à dans 15 jours et on vous laisse avec nos amis imaginaires la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut Linda, salut Luc et encore merci.
Au revoir Julien, au revoir à tous et puis à bientôt pour de vrai, j'espère.
C'est déjà fini ? Bon, alors, au revoir les amis.
www.radio-g.fr We'll be right back.